France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une coproduction des médias francophones publics.
En 1950, la télévision, Josephine Baker, Luis Mariano et Stravinsky, à Cuba, c'est la musique et le monde. Bonjour et heureux de vous accueillir dans Carrefour des Amériques, vous tous qui nous écoutez depuis la Belgique, la France et la Suisse. Nous sommes en automne 1950 à La Havane et tout le pays est en émoi. Le 14 octobre est envoyé le premier signal de télévision à Cuba depuis la maison d'un mania de la radio, Gaspar Pumarejo, propriétaire de la chaîne Union Radio Television. La première chose qu'on a vue sur les écrans, ça a été une boîte de cigarettes de la marque La Competidora Gaditana, la rivale de Cadix, avec comme musique une guaracha jouée par l'orchestre de Nico Sacchito. Puis est apparu le président de la République qui a félicité tout le monde. Et enfin, la retransmission d'une fête dans les jardins de la propriété avec des vedettes de cinéma, des Mexicains et des Cubains surtout. Et bien sûr, Gaspar Pumarejo lui-même, qui est à Cuba un animateur de radio très populaire. En 1949, la télévision était déjà très implantée aux États-Unis. Le Mexique avait suivi en août 1950, le Brésil en septembre et Cuba en octobre. Eh bien, on va écouter l'orchestre de Nico Sacchito. Compay gallo, cuidadito. Sois prudent, compère le coq. Ne confonds pas les coqs et les poules. Une version comique et cubaine de liaisons qui sont parfois très dangereuses. Et comme dans le vieux son cubain, il y a une trompette bouchée et elle n'arrête pas de rire.
Valga que hablé que si no, valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay Dios! Y cuando el gallo llegó quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así:
cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, que estas sí son para usted.
Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, al gallo le dijo: espera, gallo, usted se equivocó.
Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
cuidadito, compa gallo, cuidadito.
Voilà comment la télévision a fait sa première apparition à Cuba. Quant à la saison symphonique 1950-1951, elle aussi, elle débute avec panache. À partir de l'été 1950, c'est le chef d'orchestre allemand Frieder Weissmann qui prend les rênes de l'orchestre philharmonique de La Havane. Né en Russie au sein d'une communauté juive, Frieder Weissmann avait fui le nazisme en 1933 et avait été engagé au Concertgebouw d'Amsterdam. Puis il était parti en Argentine jusqu'en 1937. 2 ans après, il réside à New York, où il dirige l'orchestre philharmonique. Enfin, en 1950, suite à ses différents engagements à La Havane, il s'installe à Cuba, jusqu'en 1953. Il programme le 11 septembre un concert populaire sur la place de la cathédrale avec l'orchestre philharmonique de La Havane. Pour le diriger, il a invité Ferruccio Burco, qui vient de remporter un incroyable succès à New York. Ferruccio Burco est un jeune prodige né à Milan et il a tout juste 11 ans quand il dirige Verdi, Wagner, Berlioz et Beethoven. Le public est venu en foule par un après-midi d'orages tropicaux et il a attendu patiemment sous les colonnades que la pluie cesse. Quand le gamin est apparu avec sa baguette, la pluie a cessé sous les applaudissements de la foule qui a pu s'installer sur la place et les musiciens sont entrés à leur tour. Quand à la fin du concert, l'orchestre a joué l'ouverture de l'opéra brésilien Le Guarani de Carlos Gomes, le public s'est levé. L'ovation a été telle que la police a dû se frayer un chemin dans la foule pour escorter le jeune Ferruccio jusqu'à son hôtel. l'ouverture de l'opéra brésilien ou Guarani de Carlos Gomes par l'orchestre de la Beethovenhalle de Bonn, dirigé par John Nächtling. Ferruccio Burco est revenu à Cuba l'année suivante. Triste destin que le sien, il est mort à 26 ans dans un accident de voiture en Italie. Frieder Weissmann avait ensuite organisé un concert entièrement consacré à Bach pour le deuxième centenaire de sa mort. À la tête du chœur philharmonique, Paul Kshonka avait demandé le renfort du chœur national de Cuba. Et son épouse, la soprano Greta Menzel, avait été chargée en plus de faire travailler l'allemand au chanteur cubain pour interpréter, après le concerto pour quatre claviers et cordes, les deux cantates, numéro 11 et numéro 50. À l'époque, comme promis par le président cubain, le gouvernement soutient la culture dans son ensemble. C'est ainsi que l'orchestre philharmonique peut accompagner régulièrement les spectacles du Ballet National d'Alicia Alonso. Cette année-là aussi, une jeune pianiste noire de 18 ans, Zenaida Manfugas, reçoit une bourse d'études du très réputé collège de Belén à La Havane. Elle part en Espagne, puis à Paris où elle prend des leçons avec Walter Gieseking. À son retour à Cuba en 1958, elle donne un récital au théâtre Auditorium et durant les premières années de la Révolution, elle est très active comme soliste et comme professeur au conservatoire. Mais lors d'une tournée aux États-Unis en 1974, elle choisit l'exil. Elle s'établit dans le New Jersey aux États-Unis, où elle nous a quittés le 2 mai 2012.
Thank you.
Zenaida Manfugas interprétait ici Aragon, l'Aragon d'Ernesto Lecuona. Quant à Josephine Baker, elle est toujours au Grand Théâtre América de la Havane qui ne désemplit pas depuis la première de son spectacle le 27 novembre 1950. Le maître de cérémonie, c'est Rolando Ochoa, un acteur et un homme de radio très aimé du public. Le mari de Josephine, Joe Bouillon, joue du violon et dirige l'orchestre cubain Cosmopolita. Et sur scène, il y a aussi le chansonnier français Roland Gerbeau et l'orchestre des Havana Cuban Boys, dirigé par Armando Orefice, grand ami de Josephine à Paris. Parmi les grands succès cubains qu'a aimé chanter Josephine Baker, il y a le célèbre « Quizás, quizás », peut-être, peut-être, que le cubain Osvaldo Farrés avait composé en 1946. Josephine Baker chante en espagnol « Les Cubains sont aux anges ».
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, siempre tú me respondes quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá.
Le rythme des représentations de Josephine Baker au Théâtre América est très soutenu. À la mi-décembre, en plus des représentations journalières, Josephine Baker prend le temps de mettre sur pied un deuxième spectacle qu'elle intitule « Arroz con picadillo y yuca », qui est un des plats typiques de Cuba, du riz avec du steak haché et du manioc. L'un des grands succès de Josephine Baker, c'est la chanson « Anoche hablé con la luna ». Hier soir, j'ai parlé avec la lune et je lui ai dit comme je t'aimais. Composée par le pianiste Orlando de la Rosa au sommet de sa carrière.
Anoche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias. noche hablé con la luna y le conté mis sueños, los sueños que guardaba dentro de mi alma. Me confesó la luna que no tuvo amores y siempre estuvo sola llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras el amor que las olas me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas y quizás esta noche vuelva a hablar otra vez. La, 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 la. Anoche hablé con la luna y le conté mis sueños, los sueños que guardaba tan dentro de mi alma. Me confesó la luna que nunca tuvo amores y siempre estuvo sola llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras el amor que las olas me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez, vuelva a hablarle otra vez.
Joséphine Baker reste plusieurs semaines à La Havane. Elle est totalement tombée sous le charme de la ville. Au sud-est du pays, le compositeur Carlos Borboya est toujours à la tête de l'entreprise familiale de construction d'orgues mécaniques dans la petite ville de Manzanillo. Mais il comprend que son avenir est ailleurs. Il part alors s'établir dans la capitale. En 1950, Maria Jones de Castro, directrice de l'excellent Conservatoire international de La Havane, l'engage comme professeur de musique cubaine. Il commence à être enfin reconnu dans son pays, notamment grâce à l'écrivain Alejo Carpentier qui en fait l'éloge et grâce à la presse qui lui consacre plusieurs articles. Borboya a par ailleurs traduit en espagnol l'ouvrage écrit par Schoenberg en 1943 pour les apprentis compositeurs, ainsi que le livre de Leibowitz de Bach à Schoenberg. Dans les années 50, ses compositions à vocation pédagogique sont entrées dans les meilleurs conservatoires, en particulier dans celui de Julian Orbon, où on trouve ses cahiers de solfège et où on enseigne ses rythmiques cubaines à côté des cinq doigts de Stravinsky et des microcosmos de Bartok.
Thank you.
Les rumbitas numéro 1 et numéro 2 de Carlos Borboya par la pianiste cubaine Noema Fernandez, qui a bien connu le compositeur. Elle avait interprété ses œuvres en 1960 lors du récital qu'elle avait donné au conservatoire Orbonne à La Havane. En 1951, c'est d'abord le retour du pianiste Rudolf Serkin et, pour la première et unique fois à Cuba, un récital de la soprano Lyuba Velich, qui s'était rendue célèbre internationalement par la Salomé de Richard Strauss, qu'elle avait interprétée au Metropolitan Opera de New York. C'était la voix dont rêvait Strauss pour Salomé, une voix unique en son genre, très concentrée et puissante à la fois. L'été 1950, elle vient de chanter Donna Anna du Don Giovanni de Mozart au Festival de Salzbourg, et le 17 janvier 1951, elle est à La Havane, où elle chante des mélodies et des leaders de Schubert, de Richard Strauss, de Dvorak, et aussi des compositeurs russes comme Moussorgski.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Lyuba Velich, soprano, accompagnée par Paul Ulanowski dans La Petite Étoile de Modeste Moussorgski. En février 1951, Cuba vit au rythme du carnaval. Et Josephine Baker se mêle à la fête. Le 2 février, elle participe au grand spectacle qui a lieu au théâtre Comédia pour le couronnement de la reine du carnaval. Elle est en scène avec les plus grands artistes populaires cubains. La chanteuse de boléro Olga Guillot, le pianiste et chanteur Bola de Nieve, les célèbres danseuses, les mulâtresses de feu, et j'en passe. Après le théâtre américain, elle monte un nouveau spectacle, cette fois au théâtre Encanto, intitulé « Carnaval à la Baker ». suivi bientôt d'une autre revue, La Vie parisienne. Puis le 18 février, elle s'installe pour une semaine au Théâtre Alcazar. C'est son dernier spectacle à La Havane. Au revoir, adios, Cubita Bella. La belle île de Cuba, où elle est bien décidée à revenir bientôt. La última noche, la dernière nuit que j'ai passée avec toi, c'est un des grands boléros qu'elle aimait chanter.
La última noche. Como fiel testigo de aquellos momentos y de aquellos besos, y yo quiero borrarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer, porque te fuiste. Aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste. Aquella noche, como recuerdo de su traición.
En écoutant Josephine Baker en espagnol, on comprend le succès qu'elle a eu auprès du public cubain. À La Havane, elle a été époustouflée par la vie culturelle. Elle était loin d'imaginer une vie musicale aussi intense et un public aussi cultivé. Elle aurait été tout aussi surprise par la saison d'opéra qui se déroule cette année-là du 16 au 24 mai. Trois ouvrages seulement, mais quelle distribution! On se croirait au Metropolitan Opera de New York. D'abord deux représentations d'Othello de Verdi avec le ténor des ténors Mario Del Monaco, la soprano argentine Delia Regal, une gloire du Théâtre Colonne de Buenos Aires, et dans le rôle de Iago, Leonard Warren du Met à New York. C'est le délire dans la salle. Après la Traviata, c'est ensuite la Bohème avec la soprano brésilienne Bidou Sayão qui renouvelle à La Havane son succès du Metropolitan Opera. À côté d'elle, le baryton Ferruccio Tagliavini, encore une star de l'opéra. Le metteur en scène, c'est German Geiger Torell, dont la mise en scène de Tristan de Wagner était encore dans toutes les mémoires. On écoute Bidou Sayaon dans La Bohème, non dans le rôle de Mimi, mais dans celui de Musette. Elle est ici dirigée par Aitor Villa-Lobos. Quelle saison d'opéra à La Havane! En 1951, Cuba est encore un pays prospère, qui connaît une réelle démocratie, même si la corruption est bien difficile à éradiquer. Les prochaines élections présidentielles approchent et la campagne est plutôt mouvementée. Le candidat qui semble favori s'appelle Eduardo Chibas. Il passe son temps lui aussi à dénoncer cette corruption dans le pays. Quant au jeune Fidel Castro, il est rentré des États-Unis, il a 25 ans, il est devenu avocat et il est bien décidé à dénoncer lui aussi la corruption au sein du gouvernement. Il parvient même à publier un réquisitoire en pleine page dans un quotidien très conservateur dirigé par un ami de Batista. Tout cela est plutôt surprenant. Castro le Blanc, fils d'un Galicien espagnol devenu propriétaire terrien, et Batista le Métis, dont les parents très modestes sont d'origine noire, blanche et chinoise, entretiennent à l'époque une bien étrange relation. Quant au candidat Eduardo Chibas, le 5 août 1951, au cours d'une émission de radio sur la station la plus écoutée, la CMEQ, il prononce un discours tonitruant et se tire une balle dans le ventre. Par chance pour les auditeurs, l'annonce publicitaire avait coupé ses derniers mots et la déflagration. Mais le pays est en état de choc. Chibas était le candidat modéré susceptible de l'emporter aux élections présidentielles. Ses funérailles sont une immense manifestation spontanée de deuil. Mais à présent, qui va tirer les ficelles? 1951, c'est aussi l'année de la Polka des Nains, composée par Ernesto Lecuona.
Thank you.
Quel Tirino au piano dans la Polka des Nains de Ernesto Lecuona. Comme toujours, les avatars de la politique n'impressionnent pas vraiment les Cubains qui en ont vu d'autres. La ville de La Havane est toujours aussi animée, toujours aussi exubérante. En 1951, la saison symphonique débute avec une belle surprise en janvier. L'arrivée d'Ernest Ansermet, qui dirige l'orchestre philharmonique au théâtre Auditorium avec un programme qui lui est très familier. La symphonie héroïque de Beethoven, Péléas et Mélisande de Gabriel Fauré et Petrouchka de Stravinsky. Après lui, c'est encore une grande star de la baguette qui arrive à La Havane, Sergiu Celibidache, qui dirige la symphonie classique de Prokofiev, la rhapsodie espagnole de Ravel et la septième symphonie de Beethoven. Puis Jorge Belet, le pianiste cubain vénéré par le public, vient jouer le deuxième concerto de Rachmaninov. Il y a surtout l'arrivée en mars du compositeur Igor Stravinsky qui vient diriger le philharmonique dans un programme qui lui est entièrement consacré. Il était venu une première fois en 1946 et cette année 1951, il a choisi pour le public havanais l'Ode pour orchestre, composée pour Koussevitzky et l'orchestre de Boston, puis ses suites pour petit orchestre, le concerto en ré pour orchestre à cordes et le divertimento de son ballet Le baiser de la fée qui datait de 1934 et que le public cubain applaudit à tout rompre. À Cuba, Stravinsky avait été frappé par les rythmes des musiques populaires qu'il avait entendues dans les rues et il se promettait bien de rester plus longtemps à Cuba quand il reviendrait.
Thank you.
On connaît les goûts éclectiques du public cubain à La Havane. Ils ont aimé Josephine Baker, Stravinsky, et voilà qu'ils vont aimer un certain Luis Mariano González y García. Il débarque à La Havane et il va faire un triomphe. Il s'agit évidemment de notre cher Luis Mariano de France, qui est pour la première fois à Cuba présenté comme un chanteur espagnol. C'est qu'il est né en 1919 à Irún. Il parle le basque, l'espagnol et bien sûr le français. La famille s'était installée en France, puis elle était retournée en Espagne à Saint-Sébastien, et le jeune Mariano chantait dans des chœurs basques. Durant la guerre civile, leur maison est bombardée, la famille se réfugie à Anda et puis à Bordeaux. C'est là que Luis Mariano connaît le chœur Erezo Inca, où il va chanter aux côtés de Pepita Embil, la mère de Placido Domingo. Ils sont en tournée lorsque Luis Mariano se fait remarquer à Paris et il est engagé pour chanter Don Pasquale de Donizetti au Palais de Chaillot. En 1944, il est au haut de l'affiche sous le nom de Luis Mariano. Il arrive à La Havane, évidemment auréolé de ses triomphes dans les opérettes de Francis Lopez, La Belle de Cadix et Andalousie. Andalousie est portée à l'écran en français et en espagnol. Luis Mariano chante avec l'Andalouse Carmen Sevilla. Le film sort le 16 mars 1951, quelques jours avant son arrivée à Cuba. Le 31 mars, Luis Mariano est la vedette de la revue du Théâtre Marti pour quelques représentations seulement, et nul doute qu'il a aussi chanté pour les Basques de Cuba. Luis Mariano dans la berceuse basque si populaire, telle qu'il a dû la chanter aussi à La Havane. Cette année-là, en 1951, ce sont deux grands artistes cubains qui sont partis depuis longtemps et qui reviennent. D'abord, le chef d'orchestre cubain le plus connu et le plus populaire aux États-Unis, Xavier Cugat. Et aussi le chanteur Benny Moré, qui quitte le Mexique où il travaille depuis 1945. Il rentre à Cuba et il fonde son orchestre, la Tribu, qui fait immédiatement un grand succès partout. Benny Moré, C'était son pseudonyme d'artiste, en hommage à Benny Goodman qu'il aimait par-dessus tout. En rentrant à Cuba, il ne manque pas de rendre hommage à Ernesto Lecuona et à son pays qui le berce si bien au rythme du vent dans les palmiers. Il interprète à sa manière une mélodie de Lecuona justement, « Como el arroyo de palmas », comme les palmiers bercés par le vent dans la plaine, « Tu es la femme de mon cœur », et il va l'adapter aux années 50, et c'est déjà le cha-cha-cha qui pointe le nez avec lequel on va se dire au revoir aujourd'hui.
Como el arroyo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador de un armonioso vaivén. Y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Mi pasión es rumor de un
C'est avec la voix de l'un des chanteurs les plus populaires à Cuba, Benny Moré, qu'on se quitte aujourd'hui pour se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Châtelus, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.